Salut tout le monde, ici Eric Tremblay, spécialiste bière de la Cuvée.
Salut, moi c'est PA, représentant chez Ralbock.
Dans la Cuvée Podcast, c'est des rencontres avec des acteurs liés de près ou de loin au milieu brassicole. On jase, on découvre, on déguste, on mange, tout ça avec des invités différents à chaque fois. Pour notre deuxième épisode, notre invité est le flamboyant directeur au développement des affaires de la microbrasserie Noire et Blanche, Daniel Essiam.
OK,
on passe ça!
Daniel Essiam! Essiam, c'est bien ça?
C'est Essiam, oui.
Oui. Merci de nous accueillir chez Noir et Blanche.
Plaisir.
Mais j'ai toujours... Nous, on se connaît.
Oui.
La première fois que je t'ai vu...
Oui, moi aussi, je le connais.
Oui, on se connaît tous.
Bon, la première fois que j'ai assez Daniel là-dessus pour tout le monde.
La première fois que j'ai vu ton nom, je pensais que ça se prononçait Essiambré, mais bon, ça, c'est une...
Ben, écoute, c'est l'histoire de ma vie. Souvent, les gens aiment ajouter une petite touche d'exotisme à mon prénom, alors que c'est breton. Et puis, historiquement parlant, on est arrivé sur le même bateau que les Leblanc. Alors, demande-moi, fouille-moi pourquoi ils ont plus de pages que les Essiam dans le bottin téléphonique.
C'est Essiambré qui l'a échappé.
D'après moi, nos femmes étaient un peu moins jolies, puis, ou moins fécondes, je sais pas. Je sais pas.
Bref, merci pour ce bref historique de ta généalogie. Et merci encore de nous accueillir chez toi, chez Noir et Blanche. Daniel Essiam, tu es directeur...
Directeur au développement des affaires, c'est la façon la plus pertinente que j'ai trouvée de me donner un titre, mais c'est directeur de plein de choses.
C'est un beau titre.
Merci. On me dit souvent que ça fait ressortir mes yeux. Ouais. Mais en fait, je m'occupe des communications, je m'occupe de tout ce qui est vente externe, je joue les représentants également, je m'occupe de l'image de marque, l'événementiel, je touche à tout, je suis impliqué dans beaucoup de décisions qui se prennent ici. Voilà, je suis ce que les Anglais appelleront un « jack of all trades ».
Voilà, tu portes plusieurs chapeaux et tu l'exécutes très bien. Tu as vraiment une tête à chapeau.
Merci.
On va parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené chez Noir et Blanche. Tu as quand même un historique professionnel assez bien chargé quand même, t'as amené ici.
Dans le milieu de la bière, dire? Oui, absolument. Ben écoute, moi, je pense que je suis un des... Je fais partie de la première génération des tripeux de bière artisanale au Québec. Là. Peut-être après la vague Unibrew. Là, j'habitais dans Rosemont, petite patrie. Puis il y avait une boutique qui s'appelle les Délires du terroir, je crois, qui a fermé malheureusement
Sur la Plaza Saint-Hubert. Ouais.
Exact. Puis, c'est devenu un arrêt obligatoire chaque fois que je passais par là. Puis, j'avais un peu comme le font les beer geeks d'aujourd'hui, là, cette idée de collectionner les bières puis de goûter chaque bière qu'il y avait dans les frigos que je n'avais pas goûté encore. Aujourd'hui, c'est un défi qui semble un peu plus difficile
c'est
qu'à
difficile
l'époque.
Maintenant, ouais.
Mais
tu collectionnais en termes de goût, pas
en termes de goût.
Les bouteilles
non,
ou les
pas
bouchons,
du tout. J'ai jamais été un collectionneur physique. Là. C'était vraiment pour les biffés de ma liste. Là. Moi, tu m'aurais donné le choix entre ma bière favorite au monde et une bière que je n'ai pas encore goûtée. Ma curiosité va me pousser à prendre celle que je n'avais pas encore goûtée. Okay. C'est encore un peu vrai aujourd'hui.
Mais tu peux pas toutes les faire, comme tu disais, c'est
non,
difficile à cette
heure. Exactement. Ben c'est possible, mais je veux dire, je me suis fixé d'autres objectifs de vie.
Comme une autre fois, j'étais comme, t'as-tu deux ou trois fois?
Oui, c'est ça.
J'ai encore cette curiosité-là, je suis encore passionné de bière, je fais un peu plus attention à ma consommation pour des raisons de santé, pas que j'ai des problèmes de santé, mais je veux dire, à un moment donné, la vie nous rattrape, puis on fait plus attention.
Ben consommer pour déguster.
Absolument.
Consommer pour consommer, je pense que
voilà,
dans l'exercice de nos fonctions, c'est important.
Dans l'exercice de nos fonctions, on est très exposé à ça. C'est un jeu dangereux. J'ai déjà flirté avec le côté malsain que peut avoir la consommation d'alcool sur le lieu de travail. Je m'en cache pas, coupable. Mais,
j'ai été témoin.
Ouais, tu as été complice.
Oui. Oups.
Mais
comme là, on déguste. Là. C'est quoi qu'on déguste?
En ce moment, on boit la Hypic Bois Pinot Noir. C'est une IPA, bretée qui a été affinée en fût de Pinot Noir. Fait que c'est une série qu'on fait. Il y a une version Zinfandel, puis une autre qui m'échappe.
OK.
Ouais.
Ça va te revenir, c'est correct?
Ah oui, en plein milieu du podcast.
Là, c'est peut-être, ça. Peut-être. Ouais. On va y revenir.
Ou pas.
après les délais du terroir. Ben, je pense que c'est là que tu as rencontré Sylfrin.
Oui, j'ai rencontré Sylfrin Côté, Annie Auger, qui était propriétaire de la boutique à l'époque. Je suis parti faire un contrat d'un an en Équateur parce qu'en fait, je travaillais à devenir primatologue à l'époque. Puis
en fait, excuse, je te demandé, c'est quoi primatologue?
Primatologue, ben, oui, c'est l'étude des primates non humains. Donc, okay. C'est une spécialisation de l'anthropologie biologique teintée de zoologie. Là, si tu veux.
C'est extrêmement niché comme parcours académique quand même.
Ouais, oui, en effet.
Quand tu étudies là-dedans, tu espères faire quoi exactement?
Ben, de la recherche, ouais. Enseigner, tu sais, pour... Je veux pas nécessairement déballer toute ma biographie complète, mais, mais j'ai eu une crise existentielle dans mes années de cégep, puis je me suis posé la question, qu'est-ce que je répondais aux adultes quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? » Puis je répondais « vétérinaire », puis je suis parti de ce point de départ-là. J'ai toujours eu une fascination pour le monde animal, le monde naturel en général, mais particulièrement le monde animal. Puis j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, ben, je veux travailler avec les animaux, fait que je vais aller chercher une expérience avec les animaux. Puis moi et un ami, on avait des sous de côté, puis on s'est impliqué dans un projet qui impliquait des gibbons en Thaïlande. On est parti s'impliquer là-bas en volontaire pendant 3 mois, puis j'ai décidé de poursuivre avec les primates. Puis de là, de fil en aiguille, ben, je suis allé chercher d'autres expériences, des cours, des expériences professionnelles, puis tout ça. Puis
Ben merci. Moi, en fait, tu disais ça, puis je voyais la recherche de Tarzan. Là. Je ne comprenais pas, le primatologue.
Non, ben Tarzan est décédé. Je m'excuse, je savais pas que tu n'étais pas au courant, là, mais...
Ouch! Fait qu'il reste sa famille.
Cancer du poumon, c'est un gros fumeur.
Ah, OK. Ouais, je savais pas ça.
On le voit pas dans la version Disney, mais c'est un gros fumeur.
Tu t'en allais là un an pour étudier.
Oui, exactement. Ben, j'ai fait plusieurs contrats au Panama. J'ai même enseigné sur le terrain, puis tout ça. Puis oui, c'était un contrat d'un an. Là. Je travaillais pour l'Université de New York, puis UPenn à Philadelphie.
Quand même, j'aime ça.
Tu t'es aperçu rapidement qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce domaine-là. Fait que tu t'es tourné vers la bière, j'imagine.
Ben, en fait, c'est à une époque où il n'y avait pas d'argent dans la recherche, où en fait, ils ont coupé énormément dans le financement de la recherche, tu sais, à moins que tes recherches mènent à trouver un remède contre le cancer ou à fabriquer des nouvelles armes de destruction massive, c'était difficile d'aller chercher de l'argent. Ouais. Puis, moi, après mon bac, j'ai souvent reçu cette même réponse. Écoute, t'es le candidat le plus intéressant, t'as de l'expérience en or, des contacts béton, mais on va prendre Céline qui arrive avec 30 000 piastres de bourse à injecter dans le projet de recherche. Ça a été ça la réponse de plusieurs universités, puis ça m'a un peu découragé, ça m'a un peu frustré contre le milieu académique aussi. Moi, j'étais...
Avec raison.
Je m'en allais travailler dans la jungle, justement, pour fuir un peu le monde matérialiste, puis l'argent, puis tout ça, puis ça m'a rattrapé. Puis à cette époque-là, je travaillais déjà au brouhaha, puis je me souviens, on revenait du festival de Repentigny, justement.
L'Octoberfest.
Oui, avec l'Octoberfest, avec... J'étais dans la voiture avec Annie, qui était devenue propriétaire du brouhaha depuis. Okay. Puis, on cherchait un gérant depuis un petit bout de temps, là, que le brouhaha fonctionnait sans gérant. Puis, moi, ça faisait quelques fois qu'on m'en parlait. Puis, je disais toujours non parce que j'avais l'habitude de partir faire des contrats de primato, quelques mois à la fois. Fait que je pouvais pas trop me lier... de cette façon-là avec l'entreprise. Puis un peu avec un ou deux verres dans le nez comme on lit souvent en rentrant des festivals, j'ai dit, ben écoute, j'accepte le poste de gérant à condition qu'on me libère des parts puis que je devienne propriétaire. Okay. De cette façon-là, je suis devenu
ça s'est fait aussi rapidement que ça? Tout ça, je ne savais pas, ça.
Ben, on ne doit pas signer les papiers dans l'auto.
Non, mais c'est comme, salut, voici ma condition, c'est quand même... agressif.
Ouais, je pense
comme
que ça l'avait
moyen...
enchanté. Je pense qu'on partageait l'idée que d'avoir un gestionnaire sur le plancher qui est copropriétaire, c'est bénéfique. Tu sais, je le vois dans d'autres entreprises. Je le comprends très bien. C'est sûr qu'on n'a pas le même regard quand c'est notre propriété qui est gérée. Puis
c'est sûr.
Les petites fuites de dizaines de dollars, ben tu vois des fuites de plusieurs centaines de dollars à la fin de l'année. Puis, c'est toutes des petites choses comme ça que des fois les employés réalisent pas. Puis ça a un attrait aussi même pour la clientèle, là, que ça soit de se faire servir un verre par le proprio, de savoir qui est sur place, tout ça. T'sais. Je pense que le meilleur exemple, c'est l'île de Garde. Ben oui, tout à fait. Il y a tout le temps un des proprios.
Même Michael qui livre lui-même les produits. Ben, c'est quand même fun de se faire livrer par le propriétaire lui-même.
Ouais.
Ça peut avoir l'effet de se faire servir.
Ouais, c'est aussi, il y a peut-être des gens qui ne commandent pas de peur de se faire livrer par Michael, mais bon, ça les regarde. Ça. Moi, j'aime beaucoup,
Ça me semble de voir la personne. Non!
Non, pas Borat!
C'est vrai, il se déguise en Borat, des fois comme ça. Ben oui, c'est ça. Le service, ça sent un petit peu plus personnalisé quand c'est.
Absolument. Ouais. Puis ça envoie un message aussi aux employés, je pense, d'avoir un boss qui
est impliqué,
met l'épaule à la roue, puis qui va faire de la plonge s'il y a un plongeur qui colle malade, puis tout ça, puis qui est surtout en contact avec la réalité de ce qu'ils vivent aussi, puis qui sait c'est quoi de faire le chiffre au complet, puis de fermer le bar à 4h30 parce qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas dans la caisse ou n'importe quoi.
Oui.
Mais bon.
On l'a fait ensemble. On va travailler ensemble. Ouais. Je t'ai vu sur place et tu te levais de ton siège quand on était débordé, puis avec plaisir.
Ouais. C'est vrai, tu as travaillé au Brouhaha aussi. Là,
c'est mon ami, mais c'était aussi mon patron.
Vous êtes connu avant le Brouhaha?
Oui, par la force des choses, parce qu'on était tous les deux dans le milieu de la bière. J'ai de la difficulté à me rappeler.
Moi aussi, à préciser.
Sûrement l'Octoberfest. Exactement le moment. L'Octoberfest.
Ça se peut, c'est ça. Je suis devenu aussi copropriétaire du Brouhaha. Je ne savais même pas. C'est ça. Mais ça fait comme 8-9 ans peut-être qu'on se connaît.
OK. Bon, comme ça. Là. T'es resté combien de temps au Brouhaha, Dan?
Écoute, de 2010 à 2019, ouais, quoi? 8-9 ans, ouais.
Puis comment c'est travailler avec Eric? Est-ce que c'est pas dans les questions, je sens.
c'était agréable, définitivement. Tu sais, on le répétera pas. On l'a répété déjà plusieurs fois. C'est un ami aussi, Eric. Fait que, tu sais, de travailler avec. Puis, tu sais, c'était un peu ça le Brouhaha aussi. C'était cette camaraderie-là qu'il y avait sur le plancher. Puis, je pense qu'il était. Le plaisir qu'on avait à travailler ensemble, qui était contagieux sur la clientèle, je pense que. Puis, je dois le dire. Puis, c'est pas pour. Pour prêcher pour ma paroisse, mais je retrouve ça un peu ici aussi, au Noir et Blanche. Là, c'est un peu plus gros comme machine, je dirais, même si ça demeure une petite entreprise. Mm-hmm. Mais c'est quand même plus gros que ce que représentait le Brouhaha. Ouais.
Je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, j'ai fait les deux en temps, puis je comprends l'essence que tu dis. Autant j'ai souvent dit quand j'allais au Brouhaha que c'était comme si je voulais pas être dans mon salon, j'allais au Brouhaha.
Ouais. C'était donc le deuxième salon par extension.
Des chums, puis j'étais comme dans un autre salon, prendre une bière. Puis les fois que je suis venu ici aussi, il y a ça aussi. Il y a ce petit déclic-là. On dirait qu'il n'y a pas de stress dans l'air, il y a du fun, puis vous avez une place de fou. D'ailleurs, on est choyé là aujourd'hui, on est dehors sur la terrasse.
Moi, c'est ma première fois, hein. Honte, c'est ma première fois, puis je capote déjà sur la terrasse que là, on la voit pas à son plein déploiement.
C'est un mot aussi.
Je sais que c'est audio, vous le voyez pas, mais Eric dit sans honte, mais son visage dit autre chose. Il y a honte.
Il y a des caméras, en fait, on le voit. Là.
Ah oui, merveilleux.
Vous savez, une caméra ici, une caméra là, une caméra là. Vous êtes filmé, cher Dan.
Mais tu sais, cela dit, ça a du bon, beaucoup de bon, puis je l'aurais pas fait autrement, mais je pense que ça a du mauvais aussi. Tu sais, je me suis rendu compte avec les années que de se détacher un peu en tant que gestionnaire puis en position d'autorité, de cette proximité-là avec tes employés peut aussi te jouer des mauvais tours. Ouais, tu sais, ben puis je suis reparti sur des nouvelles bases au Noir et Blanche, puis autant je m'amuse avec le staff puis tout ça. Je fais attention de garder une certaine distance. Puis de toute façon, je vieillis moi aussi. Puis tu sais, il y a plusieurs années, j'étais beaucoup plus proche en âge de mes employés que je le suis ici avec la plupart des employés du Noir et Blanche.
Mais comme n'importe quel job, en fait, tu changes de job puis tu as appris ta dernière job, fait. Fait que c'est sûr que tu... t'as une chance, justement, changer de job t'a permis ça, de pouvoir trouver des bases que toi, t'es plus
absolument.
habile avec ou que tu veux essayer d'aller. C'est, absolument. C'est le fun. C'est avec le titre que tu as en plus, écoute, hey. C'est toute une base. Là.
C'est drôle, mais je suis le seul qui se donne ce titre-là ici. Les autres m'appellent autre chose, mais moi, je trouve que c'est celui qui fait le plus de sens, si on veut.
Tout le monde te considère comme le plongeur, ici, c'est bien bizarre.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Même la comptable, quand elle fait mon chèque de paie, elle pense que je suis plongeur.
Oh, ça, c'est pas bon, ça. Donc, te voilà maintenant au Noir et Blanche. Noir et Blanche, entreprise qui existe depuis 8 ans,
On fêterait le 9e anniversaire au début de l'automne, là, si on nous permet de le fêter. Là.
On ose espérer que oui.
On a sauté le 8e, malheureusement. Ben, je veux dire, il y a eu lieu mathématiquement parlant, là, mais on n'a pas pu le souligner parce que COVID oblige.
Voilà.
Fait qu'on espère de pouvoir faire une belle grosse fiesta. Puis c'est dommage parce que tout l'événement était prêt. Ben, on avait un menu anniversaire, on a tout ça, puis... Ça
n'a pas lieu. J'ose espérer que ça va se passer en septembre. Je suis un gérant d'estrade de la médecine, là, mais je pense que ça devrait être pas si pire, j'espère. Tout le monde va être vacciné.
Ben, on espère.
Ouais, c'est ça. Et je vais être là, pour de vrai.
On espère. Écoute, moi, je me fais plus d'illusions. Je veux dire, je me concentre sur ce qu'on peut contrôler. Hein? Puis le reste, ben, on fait avec. Là, tu sais, je veux dire... On se souviendra que ça a commencé il y a un an en pensant que ça allait durer quelques semaines, voire quelques mois.
C'est juste une grippe.
Voilà, ouais, une... C'est ça. Ben oui, mais tu sais, je suis à la défense des autorités puis des spécialistes puis tout ça. C'est jamais vu quand même
à notre
époque. Là, fait que tout le monde est allé à tâtons là-dedans puis à la vas-y comme je te pousse. Puis voilà, je pourrais me lever tout de suite parce qu'en fait, tout ce que je voulais, c'était réussir à plugger à la vas-y, comme je te pose.
T'as réussi.
Justement, pas mal de podcasts. Alors, merci tout le monde. Vous avez été super. Merci, Saint-Eustache.
Noir et Blanche, vision de l'entreprise, style, créneau. Qu'est-ce que vous brassez comme bière? Est-ce que vous avez une vision bien précise de vos styles de bière vous brassez? Parle-moi. Parle-moi.
Fait que, P.A., est-ce qu'il y avait une question là-dedans?
j'ai
entendu parlement.
Ben écoute, c'est quand même une c'est pas une des plus jeunes microbrasseries. Là.
Non, quand même.
On frôle la décennie. Je pense que Noir et Blanche a été fondée à un moment où t'avais pas besoin de thématique ou de spécialisation pour partir une microbrasserie puis te démarquer, tu sais. Fait que Yann, notre brasseur, et je considère, a un des plus beaux CV de brasseur au Québec, là, tu sais. C'est quelqu'un qui a été vinificateur au Verger-la-France ou La Croix, je ne sais plus. Tu sais, il a été brasseur en chef à ma brasserie, brasseur en Noir et Blanche, évidemment. Il a été chez Boréal quelques années aussi. Tu sais, je veux dire, il fait des miracles avec la petite brasserie qu'on a ici. C'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. Tu sais, il y a beaucoup de brasseurs qui lui demandent son avis, ses trucs, ses conseils, tout ça. C'est quand même une référence dans le milieu. Puis, tu sais, c'est un personnage en soi aussi, là, Yann.
Chic type.
Absolument. Puis, puis tu sais, je fais une parenthèse, là, mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai atterri au Noir et Blanche, parce que quand j'ai décidé de quitter le brouhaha, j'ai été sollicité par un paquet de brasseries, tu sais, puis j'ai eu, j'appellerais pas ça l'embarras de choix, parce que je veux dire...
C'est un heureux problème, que c'est quand même fun d'avoir le choix.
Si je voulais rester dans le coin, j'avais quelques options intéressantes, puis Noir et Blanche en faisait partie, puis ils se sont montrés super intéressés et convaincants. Puis je serais jamais venu dans une brasserie où j'aurais pas été fier de représenter les produits, puis c'est tout à fait le cas. Et tu sais, puis pour reprendre où j'ai laissé avant ma petite parenthèse... On a un portfolio hyper diversifié, justement parce qu'on n'est pas spécialisé dans un type ou un style ou une philosophie.
Yann explore un large canevas d'exploration.
Tu fais de la blonde, de la rousse, puis tous ceux que tu entends encore parler aujourd'hui dans les détaillants spécialisés. Ouais. T'as-tu une blonde? Donne-moi une rousse.
Ben oui, mais tu sais, on s'entend
vous
que...
Les faites, vous n'avez...
Ben, on l'a, notre petite blonde de soif, puis tout ça, là, tu sais, on la met pas en bouteille, la rousse... le pire, c'est qu'on a une sacrée bonne rousse qui a de la personnalité puis qui pourrait se démarquer.
La Bruce Willis.
Oui, exactement, la Bruce Willis. Mais en même temps, tu mets ça sur les étagères, là, tu sais, on pourrait peut-être en avoir à boutique 100 bouteilles, puis ça sortirait bien, puis on serait pas...
Vous n'avez pas gagné un prix, ça. D'ailleurs, récemment, avec une lager tchèque?
La Wow Cool et tchèque a gagné un prix en Oregon il y a un an et demi maintenant, là. Mais cool. On s'est amusé à participer dans un concours, je pense, qui s'appelle Best of Craft Beer. Puis effectivement, on a battu les Américains avec notre Pils. Moi, c'est à ça que je carbure là, ces temps-ci. Là. Autant je vais avoir mes bières du moment puis je vais goûter à tout, mais j'ai des envies. Ça me démange des fois de boire une bonne petite lager délicate. Puis la Wow Cool est tchèque, je veux dire, remplit le mandat là, haut la main. Puis je vous invite à aller la goûter. On a un prochain brassin qui s'en vient. Là, vous allez voir ça sur les tablettes. Mais si vous êtes amateur du style, vous allez trouver votre compte là.
Puis le nom, pourquoi le nom? Moi, j'aime ça, les noms chez Noir et Blanc.
Ben, tu sais, on peut en parler du branding, là, mais Wow Cool et Check, c'est un clin d'œil à un sketch de Bruno Blanchet dans l'émission N'ajustez pas votre sécheuse, si je ne m'abuse.
À Télé-Québec.
Bruno Blanchet se promène dans ce petit segment-là sur la plage, puis il dit « Wow, cool, hey, check! » Puis il pointe des affaires sur la plage.
On dirait que je le vois.
Mais tu sais, il faut dire oui, ça fait partie du plaisir de travailler au Noir et Blanche. Il y a une grosse partie de tout ça qui n'est pas pris au sérieux, puis on s'amuse avec ça, puis advienne que pourra, puis il y a des gens qui embarquent, puis il y a des gens qui comprennent pas, puis il y a des gens qui trouvent pas ça le fun. Ah. Mais nous autres, on a du fun, surtout le processus créatif en tant que tel, je veux dire, c'est souvent des décisions qui sont prises autour de plusieurs bières. Des fois, on est encerclé par les bières. Hein? C'est même pas nous qui sommes autour des bières, tu sais, je te dis.
Oh!
mais tu sais, souvent, c'est des brainstorms arrosés où on part dans des délires, puis le lendemain matin, tu te réveilles, puis tu es comme « Oh non! » Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi ce nom-là. C'est littéralement ça. Puis, allez voir nos noms de bière là, récemment. On va mettre bientôt en marché une bière qui s'appelle Pète et Répète. Puis,
really?
Je veux dire, on s'entend que quand tu commercialises une bière, en théorie, si on avait fait affaire avec une firme de marketing, vous auriez dit « Tenez-vous loin des références aux flatulences. »
On s'entend.
Mais ça n'a rien à voir avec le produit en tant que tel. C'est juste que l'idée, c'était qu'il n'y a jamais personne qui a mis de visage sur ces personnages mythiques que sont Pète et Répète. On les a faites. Vous allez voir l'étiquette. L'illustration est faite. Tout ça. En fait, l'étiquette est prête. On va sortir ça très bientôt.
C'est l'illustration, c'est encore Louis-Philippe Bastien.
Exactement, que vous avez peut-être croisé au service chez Brouski.
Succursale à l'époque aussi.
À la succursale derrière le bar, effectivement.
J'ai déjà croisé avec Yann à l'Avant-Garde quand je travaillais là. Brainstorm arrosé aussi, d'ailleurs.
Absolument, absolument.
À discuter de dessins, d'étiquettes.
Wow. Ouais.
Et les résultats sont toujours très concluants.
Ben, donc, c'est très chargé, nos étiquettes. Je pense que la mode est aux choses plus épurées, plus simplistes,
colorées.
Pourtant, on a des pôles de couleurs. Peut-être que c'est pas le meilleur exemple, là, mais on a quand même des étiquettes assez colorées, assez punchées, mais il y a toujours cette référence-là à la BD, les cases de BD, puis des illustrations avec bien des trucs qui se passent. T'sais. L'idée derrière ça, c'était un peu de boire sa bière en explorant l'étiquette, un peu comme on le ferait avec une boîte de céréales en mangeant son bol de céréales le matin. C'est un peu ça. Il y a plein de références. Puis c'est chargé, puis c'est humoristique. Puis,
on était accueillis ici tantôt avec la démonstration d'une étiquette. Il y avait des gros référents à Pérus. Fait qu'on voit déjà un peu l'humour derrière la création de vos étiquettes. Puis moi, j'aime bien ça.
Mais c'est toujours ça. Puis Louis fait une super bonne job. Puis, tu sais, on va toujours faire affaire avec Louis parce que il a bien compris notre univers. Ah, il en fait partie.
Puis, vous lui laissez la latitude talent, aussi.
Il est à l'écoute. Tu sais, c'est autant ses idées qui se ramassent sur les étiquettes que les idées qui sortent dans le dans le brainstorm, puis tu sais, il embarque à fond la caisse, puis il trouve ça le fun, puis c'est sûr que ça assure une certaine continuité aussi dans le branding là.
Y a-tu encore, moi je suis fou là, mais je suis passé, mais il y a encore ces cadres
à l'étage ces... okay. À l'étage on en a fait une exposition permanente là. Ça va rester ça, puis il y a de la place pour en ajouter d'autres parce qu'évidemment on continue à produire des nouvelles bières. Mais sinon, on laisse la place aux artistes locaux pour les autres salles à manger. Okay. Là.
C'est le fun, ouais. Je trouve que c'est un beau concept. C'est bien le fun.
Ouais, fait que c'est éclaté. C'est le fun, là.
Ouais, vraiment. Donc, on a effleuré tantôt un petit peu le sujet de la COVID. Évidemment, ça nous habite depuis un an maintenant. Mm. Chaque entreprise est obligée un petit peu de se réinventer pour mettre sa marque out there, si on veut, si on pour vendre. Qu'est-ce que Noir et Blanche est en mesure de faire ou a déjà fait.
Tu veux dire sur les tablettes?
Oui, sur les tablettes. Ben, ou pour attirer la clientèle à la boutique ici.
OK. Je pense que notre réalité est quand même propre à nous dans le sens où nous, la boutique, ici sur place, ça roule à fond de train. Ouais. Les gens ont adopté Noir et Blanche comme leur microbrasserie à Saint-Eustache. Tu sais, y a Simple Malte, évidemment, mais je pense que c'est autre chose. C'est un peu plus industriel et ouais. Tout ça. Tu sais, on a une proximité avec notre clientèle. Tu sais, on aime penser qu'on est la microbrasserie de quartier. Ouais. On a apporté un vent de fraîcheur dans le vieux Saint-Eustache là, depuis l'arrivée de Noir et Blanche. Tu sais, je suis sûr que ça s'explique par d'autres facteurs aussi, mais depuis que Noir et Blanche est ici, des beaux petits commerces, une belle petite boulangerie artisanale, le restaurant Géraldine qui fait parler de lui sans arrêt, la douceur du terroir, tout ça. Il y a plein de petites boutiques qui ont raviver un peu le quartier, puis c'est vraiment trippant. Puis c'est ça, j'aime penser que ça découle un peu de l'arrivée de Noir et Blanche ici. Tout ça pour
les gens
dire
avaient
que...
déjà un réflexe d'aller à la boutique, d'aller... Il y avait déjà des clients qui avaient le réflexe d'aller à la boutique ou qui étaient ouverts.
Oui, puis c'est de plus en plus. Okay. Je pense qu'on refait parler de nous un peu pour autre chose que le restaurant depuis que le restaurant est fermé. Mm-hmm. C'est un projet de micro-brasserie qui avait... un restaurant comme projet parallèle, si on veut. Puis ouais. Le restaurant est devenu une bête qui a un peu bouffé la microbrasserie ouais, en termes de...
C'est tellement bon.
Ah, oui, c'est vrai.
C'est tellement bon. On est ici, là, manger. Ouais.
Mais c'est vrai.
Je comprends, parce que c'est bon.
La table ici...
Il y aura une poutine tantôt, je crois, d'ailleurs.
Oui, on a une petite thématique cabane à sucre parce que la bière qu'on va déguster ensemble tantôt...
On peut l'ouvrir dans les prochaines minutes, d'ailleurs.
Dans quelques gorgées. mais tout ça pour dire, c'est que les gens à Saint-Eustache ont adopté cette microbrasserie-là et ils s'identifient, s'y sont attachés, c'est devenu un lieu de rassemblement, une fierté, un joyau caché, c'est ce qui attire les gens dans la région. Juste ça suffit à faire rouler la boutique.
Très cool.
Nous, on n'a pas à se battre sur les tablettes parce qu'on a une mini-production. Le gros de la production qu'on fait, c'est servi ici au restaurant. Ce qu'on distribue à l'extérieur de la boutique, c'est surtout pour que les gens puissent nous découvrir puis peut-être passer nous voir un de ces quatre.
Et vous n'avez pas un plan agressif de distribution?
Pas du tout. Savez-vous quoi? On est petit puis on aime ça, puis on est bien là-dedans.
C'est correct.
Ça nous ressemble plus.
C'est très respectable.
On n'a jamais eu d'idée de grandeur puis de conquérir le Québec. Tu sais, je veux dire, on a une business à faire survivre. On a des projets liés à ça, d'expansion dans une certaine mesure. Si vous voyez la taille de la brasserie ici, c'est minuscule.
Quand même, ouais.
On fait vraiment avec les moyens du bord. Puis en fait, je l'ai dit tantôt à propos de Yann, mais il fait des miracles avec l'espace qu'il y a. C'est sûr qu'on pourrait avoir un espace plus fonctionnel pour la production, mais ce serait pas nécessairement pour envahir le Québec.
Avec la grosse proportion de la production est pour le pomme en tant que tel.
Oui, mais tu sais, évidemment qu'on veut être dans les petits commerces du coin, on veut être sur les fûts de la région, mais c'est vraiment dans une optique locale. Puis au-delà des affaires comme telles, c'est une philosophie. C'est une philosophie plus écologique aussi. Puis ça fonctionne pour plein d'autres microbrasseries au Québec d'espérer un certain tourisme brassicole, puis de venir...
Tout à fait.
de se déplacer pour aller découvrir la microbrasserie. Puis je pense que c'est ça, c'est ça un peu l'avenir, là, ou du moins le prochain chapitre de ce qu'on appelle la révolution brassicole.
Oui, ou de l'agrotourisme.
Absolument, ouais. Puis on le voit de plus en plus, ça fonctionne pour des ovales, puis loin de moi l'idée de comparer le buzz autour des bières d'ovales.
Non, non, mais ils ont la même philosophie quelque part.
Mais cette idée-là, puis tu sais, le fait qu'on ne soit pas à 8 heures de route, c'est sûr que ça enlève un peu de l'aspect romantique de la chose. Là, ouais. Aller à Saint-Eustache quand tu habites à Montréal, c'est
peut-être que quand tu es en Gaspésie et tu vas à Saint-Eustache, c'est cool. Là.
Oui, absolument. Hein? Absolument.
Non, c'est quand même 8 heures de route, il est là.
Ouais. Oh, ouais. C'est vrai.
Tu parlais des artisans dans ton voisinage immédiat. Ouais. Est-ce que vous collaborez ensemble des
absolument,
fois? Absolument.
Tu sais, je peux vous parler déjà, je sais pas quand tout ça va être publié, là, mais...
En avril.
Le restaurant Géraldine, qui est notre voisin en face, fait parler de lui. Son chef, Olivier, se fait lancer des fleurs sans arrêt. Il est passé dans le Devoir, si je ne me trompe pas, il y a 2 semaines. Tout ça. Une superbe table qui prend ses inspirations du terroir local, de la forêt boréale.
Très
ça.
Cool.
Puis, lui, il n'a pas de permis d'alcool. C'est un apporter votre vin.
OK.
Fait que, tu vois, pour la Saint-Valentin, le Super Bowl, puis là, prochainement, son brunch de Pâques, j'ai proposé des accords avec nos bières. Puis lui, il vend ça aussi. Il vend son menu de brunch et puis la liste des accords. Fait que les gens réservent le brunch de Pâques, vont le récupérer, traversent à la boutique du Noir et Blanc, viennent chercher les bières en accord avec.
C'est magnifique.
Puis pas juste ça, il cuisine avec nos produits aussi. Sur son brunch de Pâques, il y a 2 des services qui sont des viandes qui sont braisées dans nos bières. La bite carrée, qui est notre extra special bitter. Et d'ailleurs, la fumable, parce que c'est de saison de les trucs à l'érable, évidemment.
Ben, moi, je serais prêt à l'ouvrir, si vous voulez. On est là pour déguster aussi une bière puis d'en parler. C'est un produit de saison, justement. On a un peu une thématique même vestimentaire, dans ton cas.
Je pensais que vous alliez embarquer aussi dans les accoutrements de
habituellement, je suis nu quand je viens, mais non, j'ai pas de chemise à carreaux.
C'est pas vrai, ça.
J'en ai beaucoup.
Ouais,
tu connais mon garde-robe.
On a dit qu'on était amis et que je savais comment que ça vient.
Oui, c'est ça. Je suis un fashion victim bien assumé.
Quand tu parles de la boutique, en fait, tu disais justement que les gens se... Tu sais, ils continuaient à être là pour vous, à venir en boutique et tout. Puis justement, ça mettait un peu le côté bouffe de côté pour justement mettre l'emphase sur les bières qui sont vendues à la boutique. Ça, je trouve ça très cool. Ça veut dire que vous avez été capable de vendre quasiment autant de bières que si vous aviez été ouvert. Mais cet aspect-là est quand même le fun, que les gens soient venus en boutique. Puis, seconde partie de cette idée-là, c'est est-ce que... Je sais pas, est-ce que vous êtes resté ouvert aussi pour vendre des mets pour apporter avec les bières ou non?
On a essayé plusieurs choses différentes. On a fait des trucs congelés qu'on vendait à la boutique. En fait, on le fait toujours, puis ça va rester d'ailleurs.
Oui.
Mais ça va de moins... On présentait là, des repas en tant que tels.
Okay.
Ou des items que tu pouvais... joindre pour former un repas, des trucs sous vide puis tout ça. Sinon, là, ce qu'on va faire, c'est que quand on va produire en gros, par exemple, on fait une batch de porc effiloché dans le fumoir ou des cuisses de canard confites fumées, des choses comme ça, mais on va toujours garder une partie de la production pour être vendu en boutique.
Okay, cool.
Ça va être moins des repas. Okay. Puis là, on a recommencé il y a un peu plus d'un mois maintenant le comptoir de repas chauds pour emporter. Fait qu'on a recommencé à faire...
Fait que ce petit clin d'œil bouffe-là est encore là pour ceux qui ont toujours...
Absolument, absolument. Puis c'est, je veux dire, la clientèle qui venait chercher de la bière en boutique le réclamait, puis... quel timing! Vois approcher Dominique avec les poutines de la cabane.
Les poutines de la cabane.
En fait...
les poutines de la cabane, j'aime ça.
Ben, on a voulu faire une petite poutine clin d'œil à la cabane à sucre. Je sais que... Je vais me permettre d'en parler parce que j'étais d'accord avec le mouvement. Puis,
merci beaucoup.
Puis on a eu la réflexion. Tu sais, il y a beaucoup de restaurants qui se sont mobilisés. Je pense qu'il y a eu beaucoup autour du Pastaga là, que c'est parti. Mais d'ailleurs, le Géraldine, merci Dom.
Merci.
Le Géraldine a adopté la même philosophie. Puis je respecte ça beaucoup. A décidé de ne pas faire de boîte repas ou des
ouais,
trucs.
Pour laisser place au.
Exactement. Tu sais. Ouais. Nous, de notre côté, c'était un simple clin d'œil à la cabane à sucre. On n'a pas offert là, de. Je pense pas qu'on a volé la poutine cabane à sucre de quelqu'un d'autre.
Non, on a donné
une petite saveur à un de nos plats sur le menu. Puis, mais on a eu la réflexion, puis on pensait pas qu'on allait marcher sur les pieds des cabanes à sucre.
Tu as juste mentionné vite aussi, quand les choses vont revenir à la normale, vous allez encore offrir la bouffe en take-out.
Ben, le take-out, je veux dire, la cuisine, là. Si on est capable d'exploiter le restaurant à pleine capacité comme on le faisait avant la COVID, il n'y a pas beaucoup de place pour les commandes pour emporter parce que ça vient encombrer un peu le service au table, puis on veut prioriser les gens qui sont assis sur place. Mais ce qui va être vendu en boutique, les trucs congelés, juste vous présenter un peu la poutine.
Ben oui, vas-y. J'allais justement te dire, là, t'es rendu avec plein de descriptions de la poutine,
bon,
la bière,
tout.
Fait qu'évidemment, la base, c'est notre poutine classique. Fait que les frites maison, le fromage quick, notre sauce à poutine faite avec la bière Bruce Willis, qui est notre aile rose de seigle. S'ajoute à ça du flan de porc fumé. Du flan de porc lacal érable, du jambon fumé, des oreilles de Chris. Et il y a un petit caramel à l'érable qui est versé là-dessus.
Du caramel dans ma main.
Je ne sais pas si on entend mes bruits intestinaux au micro, mais
c'est un accord évidemment facile.
De circonstances aussi.
La fumable,
c'est une base de brown ale anglaise. Plus forte en alcool, évidemment, avec un... Quoi, c'est 20%, je pense, de mal fumé dedans. Puis une quantité astronomique de sirop d'érable.
Moi, c'est écrit beaucoup. Astronomique beaucoup. De sirop d'érable.
Honnêtement,
il faudrait demander à Yann c'est quelle quantité exacte. Est-ce que c'est astronomique ou beaucoup? Ça m'échappe.
C'est astronomiquement beaucoup.
L'aspect fumé est assez discret, je dirais.
Mais santé. Ah, puis j'oubliais, il y a des oreilles de Christ aussi.
Les oreilles de Christ.
Sur la poutine pour ajouter un petit croustillant. Mais c'est le fun pour de vrai. J'espère que vous n'avez rien de prévu après parce que vous allez avoir envie de vous coucher sur le dos.
Moi, je vais peut-être essayer de faire le croustillant dans mon micro pour montrer aux gens comment que ça croustille.
C'est une très bonne bière. J'aime l'équilibre des saveurs. C'est pas trop fumé, c'est pas trop sucré à cause de l'érable. Les bières fumées, c'est extrêmement polarisant, comme tu sais. C'est soit too much ou trop discret. Mais bon.
Mais effectivement.
Mais c'est bien équilibré.
Moi, j'ai toujours dit le propre. En fait, il y a deux choses que j'aime d'un. Il y a deux choses qui me font dire on a affaire à un bon brasseur. En fait, pas juste deux, mais parmi les deux choses qui sont, selon moi, des symptômes d'un bon brasseur quand je visite une brasserie. De faire une bière forte qui ne goûte pas l'alcool, tu sais.
Oui, voilà.
Je pense que c'est le cas ici. On est quand même à 7,5% d'alcool. Là.
Ah oui, OK. J'aurais même pas dit ça.
Et l'équilibre. Oui. Puis au noir et blanche, je pense qu'on peut dire ça dans pratiquement toutes les bières. Je veux dire, venez me confronter là-dessus, là, si vous voulez.
Tu as le droit de prêcher pour ta paroisse aussi.
Mais je le fais en toute honnêteté. Humilité,
ouais. C'est une super belle balance.
Oui, sérieusement. Quand j'ai vu Brune fumer, je le dis en toute transparence, je suis vraiment pas un fan de Rauch Beer ou ces trucs-là. Mais c'est juste la bonne dose intéressante pour avoir une profondeur de saveur, je trouve ça vraiment le fun. Avec plus, j'échappe.
C'est parfait, ça du bruit de laisser la vie. Mais moi j'aime ça parce que, parce que c'est pas ces questions, mais j'aime ça faire des liens avec le fait que le podcast, c'est le podcast de la cuvée.
Ouais.
Puis le fait que les gens ont peut-être déjà vu un petit clin d'œil avec la cuvée, puis soit Dan, Noir et Blanche et tout, il y a, à la dernière cuvée qu'il y a eu, physiquement, je me trompe pas, Il y a eu une bière officielle de Noir et Blanc Rouge pour la cuvée.
Oui, ben en fait, on avait planifié la recette avec Eric.
Oui, que je me suis pas pointé au jour de brassage.
Il a manqué son autobus.
J'ai manqué les autobus.
Puis vous le savez, les autobus vers Saint-Eustache, il y en a un par semaine.
Mm-hmm. Oui. Pas tu manques.
On avait fait une India Pale Ale de session.
Pale Lager, même, je pense.
India Pale Lager, ouais. Oui, tu as raison. Ouais. India Pale Lager de session qui avait été affinée sur de l'érable imbibé de vin jaune.
Ah ouais.
Puis breté, hein?
Oui, oh, tout à fait.
Ça fait que vin jaune, c'était un Jura là, qui a été mis dessus ou juste.
C'était, c'était un vin jaune de La Croix.
Mm-hmm. Ah, La Croix fait un vin jaune. Ouais. OK, cool. Ouais. Très cool.
Puis là, on vient juste de la rebrasser, cette bière-là. On l'a rebaptisée parce que cuvée 2020, ça faisait moins de sens. Là. Mais on l'a rebaptisée la Bessic jaune. Clin d'œil à François... Pardon? Clin d'œil à François Pérusse, ouais. Assez, assez évident.
Et le vin jaune? Ah, je viens de faire
oui,
le lien.
Oui, Bessic jaune, c'est ça. On cherchait un nom avec jaune. Là. On avait c'est pensé à jaune Claude Van Damme ou...
Pour faire suite avec la gang de Universal.
Ouais, mais justement, je pense qu'on veut se détacher un peu de ça, là, parce que ça part dans tous les sens. L'original étant Bruce Willis. Là. Anecdote, d'ailleurs, à propos de la Bruce Willis, c'était un brainstorm qui s'est fait entre brasseries à une soirée des brasseurs qui est organisée par le Trou du Diable.
Mm-hmm. Okay.
Il y a plusieurs années, puis... il y avait Fred, Pascal et Yann qui sont les trois propriétaires de la brasserie qui ont organisé une espèce de brainstorm pour leur nouvelle rousse avec une bonne part de seigle puis tout ça. Puis on était plein à se lancer des idées comme ça. Puis moi, j'étais pas affilié avec Noir et Blanche à l'époque. Puis j'avais sorti ça, Bruce Willis. Puis c'est devenu le
vrai.
De la bière.
C'est toi, ça?
Ouais, c'était moi.
C'est toi, Bruce Willis?
C'était moi.
Ben voyons, pour vrai?
Ouais.
Je savais pas.
Ce même soir-là, j'ai aussi sorti comme un nom mythique illustré de... qui a été repris par une autre brasserie.
On ne nommera pas.
Je sais pas si vous vous souvenez, les frères Lagabière, mais c'est moi qui l'avais sorti, celle-là.
Ils étaient là, les deux. Comme quoi, ça fait partie des brainstorms alcoolisés des fois que ça s'oublie. Ça... Non.
Ben oui, c'est bien correct.
Ça s'oublie, mais ça reste là. Hein. Ça reste comme là. Il me semble que c'était là, elle est fun. C'est quelqu'un. Ouais. C'est très bon, cette poutine-là. C'est l'accord est vraiment le fun.
Je dis merci, j'ai aucun mérite dans cette poutine-là. Mais
non, non, mais j'essaie de me contrôler parce que je ne veux pas faire des bruits de bouche au micro. Donc, mais c'est vraiment très, très.
Moi, j'évite les nouvelles oreilles de Chris dans la prochaine bouchée que je prends.
Oui, c'est ça. Je prends tout et ouais, c'est ça. Exactement. Hey, on parle de cabane à sucre. C'est un peu la thématique. Dan.
Oui.
Un petit souvenir de cabane à sucre.
Oh.
De ta jeunesse ou pas.
Écoute. J'en ai pas des tonnes. Je peux-tu faire trois petites anecdotes?
Tout à fait.
Il y en a une qui est vraiment cool. J'avais un ami qui avait un ami que sa famille avait une cabane à sucre, mais là, pas une cabane à sucre commerciale du tout. Là. Il y avait une érablière, il y avait un chac au milieu de l'érablière. Puis c'est vraiment ma plus belle expérience, je pense, de cabane à sucre. Puis lui... Et deux de ses meilleurs amis avaient un groupe de compteurs. Fait que tu vois le genre de veillée que ça avait donné. Puis c'était le gros gin, puis c'était les comptes. C'était très traditionnel, mais c'était très authentique. C'était super humain. J'ai vraiment des beaux souvenirs. Puis j'avais quelques-uns de mes meilleurs amis qui étaient là aussi. Je pense que c'est ma plus belle expérience de cabane à sucre. Là, j'ai pas d'anecdote autre que la soirée en tant que telle.
Ah, mais ouais.
Quand on me demande c'est quoi ton plus beau souvenir de cabane à sucre, je pense que j'ai jamais rien vécu d'aussi authentique. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'organiser quelque chose dans une cabane à sucre, bien, on se finit tout le temps dans des espèces de grosses cafétérias bondées. Puis j'ai connu quelque chose plus intime, puis plus moins commercial, puis je sais pas où le retrouver, ça, tu sais. Un autre, quand j'étais à l'université, on avait organisé une sortie avec le département d'anthropologie, puis ça aussi, c'était une petite cabane à sucre, on était les seuls qui étaient là, il y avait eu le souper, puis tout ça, puis on avait eu la cabane pour la soirée, puis mon souvenir, c'est que la neige était collante. Okay. Puis okay. Ça a viré en bataille de boules ben de neige oui. Qui m'a marqué.
La guerre des tucs.
Oui, mais tu sais, on courait solide. Dans le bois, là, ouais. Puis t'étais traqué, puis tu te cachais. Ah, puis t'avais des snipers, puis tout le kit.
Comme du paintball, mais avec des boules de neige. C'est ça.
C'est la meilleure bataille de neige que j'ai connue. Puis j'en ai quand même quelques-unes.
Pourquoi j'étais pas là?
Je vous ai-tu montré mes cicatrices de bataille de boules de neige? Ma troisième, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Mes frères riront en m'entendant la raconter, mais on était allé dans une cabane à sucre aussi, quelque chose de plus intime. Ça existe-tu encore, ça? Avez-vous connu ça?
Tu veux dire des cabanes à sucre intimes?
Oui, mais juste ta famille.
Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait encore une famille qui décide d'aller chercher le l'eau d'érable de justement ces arbres qu'il y a sur sa cour, qui décide de faire ça. Moi, j'avais un oncle qui faisait ça, comme qui prenait toutes les érables qu'il y avait sur son terrain, puis il y avait comme une petite cabane à sucre. Il y a des gens qui ont des garages, lui, il y avait une cabane à sucre chez eux. Ben, c'était vraiment tout petit, puis c'était ouais. Je sais pas, ça doit arriver, mais là, t'en entends moins en moins parler, surtout en COVID, t'en entends pas parler.
Ben, c'est sûr, mais je l'ai cherché pour organiser des trucs entre amis puis avec ma famille. Puis...
Genre un Airbnb cabane à sucre intime.
Mais une vraie cabane à sucre, tu sais, j'envoie le message, je pense que les gens recherchent ça, puis si... Écoute, mon ancienne conjointe, j'y en parlais de ça, puis elle, tout ce qu'elle avait connu, c'était dans des cabanes à sucre commerciales, puis je me rends compte que c'est pas tout le monde qui a goûté à ça, tu sais. Ouais. Puis je crache pas là-dessus, je veux dire.
Non, non, non.
Mais c'est juste autre chose.
L'aspect rustique, un peu de la patente.
J'ai du fun à aller à la cabane à sucre Constantin, puis tout ça. Mais
au pied de cochon,
il y a quelque chose que je vais chercher dans les trucs un peu plus intimes que je peux pas aller chercher chez Constantin.
Moi, en tant que souvenir, là, je sais que c'est pas à moi la question, là, mais de cette cabane à sucre que j'avais là, avec mon oncle, là, c'était qu'il y avait un, tu sais, des vieux fours à bois, que tu mets les bûches en dessous, tout, puis il faisait griller ses toasts sur le poêle. Et avec tout ce qu'on mangeait, le jambon, le sirop d'érable, puis il y avait juste en arrière de nous justement l'eau d'érable qui bouillait en plus. Puis ça, là, je trouve que c'est un petit côté magique au nez. Comme juste l'odeur qu'il y a dans la pièce, en bouche, quand tu croques dans cette toast-là, c'est magique, c'est le fun. Puis tu peux pas retrouver ça dans un... Ah ouais, let's go! Mange ton grand-père dans le sirop, t'as 2 secondes et quart pour le manger, le prochain arrive. Non, ça, t'as vraiment l'air d'être un peu comme un peu bétail qui est comme, OK, c'est mon tour, j'ai 2 heures, c'est bon, après c'est fini, bye, next!
C'est quoi le côté toast grillé pour moi, là? Ben, brûlé même.
Oui, le noir, là, oui.
Moi, c'est un des goûts que j'associe à la cabane à sucre. Puis, pas pour plugger la bière, mais je le trouve dans cette bière-là aussi.
C'est correct, t'as le droit de la plugger.
Ça va prendre une gorgée et dire oui.
Ben, tant qu'à faire un tour de table de souvenirs, moi, j'en ai pas beaucoup de précis.
Attends, faut que je dise oui. Oui. C'est bon, j'ai goûté la bière, j'ai dit oui.
Bon, pas mal. Les gens qui me connaissent, j'ai un gros appétit là, quand même. Là, mais puis quand je visite des cabanes à sucre, ben, c'est free for all, pas mal. Ouais, je me donne. Et je finis toujours par vomir. Voilà, c'est pas mal ça, le souvenir qui me revient.
Est-ce que tu es en train de dire que tu es boulimique? Ça va? T'es-tu boulimique?
Absolument. Okay, c'est bon, okay, c'est juste que je mange trop.
Moi, il m'a déjà invité à cabane à sucre, puis finalement, c'était le mandarin.
Ça vient à casser comme fou.
Il mettait du sirop sur tout.
Ben, sinon, une ex-conjointe, sa cousine avait une érablière en Mauricie, et j'ai pu participer...
À la traite.
C'est un art de l'érable. Bon, voilà, fait que j'ai pu participer un peu à la confection
de l'érable. C'est un art de trouver le mamelon.
Hands-on, ouais, c'est ça. Fait que c'est un beau souvenir que j'avais. J'aime ça participer et jouer à toutes les étapes de la confection de quelque chose. Fait que c'est un beau souvenir, j'ai eu bien du fun.
Ouais. Mes frères m'en voudront si je la raconte pas, fait que vu que j'ai commencé à la raconter, je vous dis, c'est rien, mais ça m'a marqué. C'était une cabane à sucre, en famille, puis j'ai un demi-cousin parce que c'était la deuxième épouse de mon oncle qui avait eu un autre fils, puis on était un peu moins proche de lui, puis à un moment donné, il est allé dans la bécosse à l'extérieur de la cabane, tu sais, c'était aussi rustique que ça. Mm-hmm. Puis nous autres, moi et mes frères, on était tannants, puis notre cousin Benjamin, salut Benjamin, puis maudit bâtard, savez-vous quoi, la neige était collante encore. Et on a attaqué la bécosse avec des balles de neige, mais lui a complètement paniqué au point où il a tapissé les murs de la bécosse avec, avec ses matières fécales.
Non.
Je ne sais pas comment c'est arrivé, quoi? Mais il y avait de la marde partout.
Okay.
Bon appétit, les gars.
Coup de panique.
C'est bon. Puis c'est... J'ai le souvenir de mon oncle qui est allé en bon père nettoyer la bécosse avec un gros cigare.
Ben voyons.
Puis qui a fini la job. Puis je me souviens que j'ai vu ça. Il a botché son cigare.
Non.
Puis ça m'a marqué. Puis étonnamment aujourd'hui, quand je reçois une question. Fait référence à Cabane à sucre, ces images-là me reviennent toujours en tête. Est-ce qu'elles reviennent me hanter? Raison. Je sais pas. Mais j'aime penser que
écoute,
c'est cocasse.
J'ai moyennement faim maintenant, mais c'est correct. Que... Mais j'ai aussi étrangement le goût de fumer un cigare. Mais c'est ça, là.
C'est correct. Et de le botch. Ah non,
non, c'est beau. Ça.
J'ai déjà essayé de fumer de la poutine.
Non.
Ben, faites de traîner ma pépacac.
Cette bière s'appelle la fumable.
C'est la fumable, oui. Écoute, on a effleuré un peu le sujet de la bière, là, mais au niveau distribution, est-ce que c'est disponible seulement à la boutique? Est-ce que c'est distribué aussi dans les détaillants spécialisés?
Ben là, on vient de l'embouteiller cette semaine.
C'est une nouveauté. Là.
Ben, c'est une nouveauté dans le sens où on la brasse une fois par année, mais ça fait quand même quelques années qu'on l'a fait. Ça va aussitôt qu'on retourne porter de la bière, ça arrive sud chez notre distributeur Bokeh.
Bokeh, oui. Bonjour.
Ça va être sur les tablettes. Je pense que on le sait, là, il y a des clients qui l'attendent à chaque année, puis
ben oui.
Des gens qui nous disent j'aime pas les bières fumées, mais la vôtre est vraiment bonne. Mais effectivement, ouais, c'est un fumé léger qui est pas.
Je vais faire un statement si on veut. La bière saisonnière, pour le temps des sucres, si on veut, c'est toujours l'équinoxe du printemps de Dieu du ciel. Mais celle-ci à cote comme.
Sérieusement.
Puis elle a un beau profil pour être...
C'est pas le même style, je le sais, là. Mais c'est...
Ben non, évidemment pas. Puis,
Scotch Ale versus...
Honnêtement...
Là, tu parles de bière pour accompagner justement ce genre de plat-là. Là. Mm-hmm. C'est vrai.
C'est excellent.
T'as très raison là-dessus.
Beau travail. Merci, oui, Daniel!
Ben, ça fait plaisir.
C'est tout, Daniel!
C'est tout, pour vrai?
Ben oui, c'est tout, Daniel.
Ben non, il y a un dessert qui s'en vient.
Pour vrai?
Ben oui.
Je savais pas, moi.
Ben oui.
Ben pourquoi on l'avait pas dit avant?
C'est pas vrai,
il
n'y a pas de
dessert.
Pas de dessert. C'est moi le
dessert! Nice!
Ça fait plaisir, merci d'être venu.
Ben oui, mais pour vrai, merci beaucoup, Daniel, de nous avoir accueillis.
Ouais, merci beaucoup. Merci.
Dans votre établissement. Merci pour la poutine, merci pour la bière, c'est vraiment nice. T'es très beau. Merci beaucoup.
Vous êtes pas mal non plus.
J'ai hâte de cruncher hors micro.
Parce que j'ai un ça crunch fort, j'aime ça.
Toi, chez vous, appelez-vous ça les oreilles de Christine?
C'est qui, Christine?
C'est ma mère! Mais oui, merci beaucoup.
Allô, Christine?
C'est ce qui termine le deuxième épisode de la Cuvée Podcast. Si vous avez l'émission, n'oubliez pas de nous donner des petites étoiles pour nous aimer beaucoup, on aime ça. Abonnez-vous et partagez le podcast. Retenez-vous sur la page Facebook de la Cuvée pour des exclusivités. On vous aime. Merci de vous écouter.
Merci.
Merci.